Émile Zola, comment on meurt? Le comte de Verteuil a 55 ans. Il appartient à une des plus illustres familles de France et possède une grande fortune. Boudant le gouvernement, il s'est occupé comme il a pu à donner des articles aux revues sérieuses qui l'ont fait entrer à l'Académie des sciences morales et politiques, s'est jeté dans les affaires, s'est passionné successivement pour l'agriculture, l'élevage, les beaux-arts, même un instant, il a été député et s'est distingué par la violence de son opposition. La comtesse Mathilde de Verteuil a 46 ans. Elle est encore citée comme la blonde la plus adorable de Paris. L'âge semble blanchir sa peau. Elle était un peu maigre. Maintenant, ses épaules, en mûrissant, ont pris la rondeur d'un fruit soyeux. Jamais elle n'a été plus belle. Quand elle entre dans un salon avec ses cheveux d'or et le satin de sa gorge, elle paraît être un astre à son lever. Et les femmes de 20 ans la jalousent. Le ménage du comte et de la comtesse est un de ceux dont on ne dit rien. Ils se sont épousés comme on s'épouse le plus souvent dans leur monde. Même on assure qu'ils ont vécu 6 ans très bien ensemble. À cette époque, ils ont eu un fils, Roger, qui est lieutenant, et une fille, Blanche, qu'ils ont mariée l'année dernière à M. de Bussac, maître des requêtes. Ils se rallient dans leurs enfants. Depuis des années qu'ils ont rompu, ils restent bons amis avec un grand fond d'égoïsme. Ils se consultent, sont parfaits l'un pour l'autre devant le monde, mais s'enferment ensuite dans leurs appartements où ils reçoivent des intimes à leur guise. Cependant, une nuit, Mathilde rentre d'un bal vers 2 heures du matin. Sa femme de chambre la déshabille, puis au moment de se retirer, elle dit « Monsieur le comte s'est trouvé un peu indisposé ce soir. » La comtesse, à demi endormie, tourne paresseusement la tête. « Ah » murmure-t-elle. Elle s'allonge et ajoute « Réveillez-moi demain à 10 heures, j'attends la modiste. » Le lendemain, au déjeuner, comme le comte ne paraît pas, la comtesse fait d'abord demander de ses nouvelles. Ensuite, elle se décide à monter auprès de lui. Elle le trouve très pâle dans son lit, très correct. 3 médecins sont déjà venus, ont causé à voix basse et laissé des ordonnances. Ils doivent revenir le soir. Le malade est soigné par 2 domestiques qui s'agitent graves et muets, étouffant le bruit de leurs talons sur les tapis. La grande chambre sommeille dans une sévérité froide. Pas un linge ne traîne, pas un meuble n'est dérangé. C'est la maladie propre et digne, la maladie cérémonieuse qui attend des visites. « Vous souffrez donc, mon ami ?» demande la comtesse en entrant. Le comte fait un effort pour sourire. « Oh, un peu de fatigue, » répond-il. « Je n'ai besoin que de repos. Je vous remercie de vous être dérangé. » 2 jours se passent. La chambre reste digne. Chaque objet est à sa place. Les potions disparaissent sans tacher un meuble. Les faces rasées des domestiques ne se permettent pas d'exprimer un sentiment d'ennui. Cependant, le comte sait qu'il est en danger de mort. Il a exigé la vérité des médecins et il les laisse agir sans une plainte. Le plus souvent, il demeure les yeux fermés ou bien il regarde fixement devant lui, comme s'il réfléchissait à sa solitude. Dans le monde, la comtesse dit que son mari est souffrant. Elle n'a rien changé à son existence, mange et dort, se promène à 16 heures. Chaque matin et chaque soir, elle vient elle-même demander au comte comment il se porte. « Eh bien, allez-vous mieux, mon ami ?»« Mais oui, beaucoup mieux. Je vous remercie, ma chère Mathilde. Si vous le désiriez, je resterai près de vous. »« Non, non, c'est inutile. Julien et François suffisent. À quoi bon vous fatiguer ?» Entre eux, ils se comprennent. Ils ont vécu séparés et tiennent à mourir séparés. Le comte a cette jouissance amère de l'égoïste, désireux de s'en lasser seul, sans avoir autour de sa couche l'ennui des comédies de la douleur. Il abrège le plus possible, pour lui et pour la comtesse, le désagrément du suprême tête-à-tête. Sa volonté dernière est de disparaître proprement en homme du monde qui entend le déranger et ne répugner personne. Pourtant, un soir, il n'a plus que le souffle. Il sait qu'il ne passera pas la nuit. Alors, quand la comtesse monte faire sa visite accoutumée, il lui dit en trouvant un dernier sourire « Ne sortez pas, je ne me sens pas bien. » Il veut lui éviter les propos du monde. Elle, de son côté, attendait cet avis. Et elle s'installe dans la chambre. Les médecins ne quittent plus l'agonisant. Les deux domestiques achèvent leur service avec le même empressement silencieux. On a envoyé chercher les enfants, Roger et Blanche, qui se tiennent près du lit à côté de leur mère. D'autres parents occupent une pièce voisine. La nuit se passe de la sorte dans une attente grave. Au matin, les derniers sacrements sont apportés, le comte communie devant tous, pour donner un dernier appui à la religion. Le cérémonial est rempli, il peut mourir. Mais il ne se hâte point, semble retrouver des forces afin d'éviter une mort convulsée et bruyante. Son souffle dans la vaste pièce sévère émet seulement le bruit cassé d'une horloge qui se détraque. C'est un homme bien élevé qui s'en va. Et lorsqu'il a embrassé sa femme et ses enfants, il les repousse d'un geste, il retombe du côté de la muraille et meurt seul. Alors un des médecins se penche, ferme les yeux du mort, puis il dit à demi-voix « C'est fini ». Des soupirs et des larmes montent dans le silence. La comtesse, Roger et Blanche se sont agenouillés. Ils pleurent entre leurs mains jointes. On ne voit pas leur visage. Puis les deux enfants mènent leur mère qui, à la porte, voulant marquer son désespoir, balance sa taille dans un dernier sanglot. Et dès ce moment, la mort appartient à la pompe de ses obsèques. Les médecins s'en sont allés, en arrondissant le dos et en prenant une figure vaguement désolée. On a fait demander un prêtre à la paroisse pour veiller le corps. Les deux domestiques restent avec ce prêtre, assis sur des chaises raides et dignes. C'est la fin attendue de leur service. L'un d'eux aperçoit une cuillère oubliée sur un meuble, il se lève et la glisse vivement dans sa poche pour que le bel ordre de la chambre ne soit pas troublé. On entend au-dessous, dans le grand salon, un bruit de marteau. Ce sont les tapissiers qui disposent cette pièce en chapelle ardente. Toute la journée est prise par l'embaumement. Les portes sont fermées, l'embaumeur est seul avec ses aides. Lorsqu'on descend le comte le lendemain et qu'on l'expose, il est en habit, il a une fraîcheur de jeunesse. Dès 9 heures, le matin des obsèques, l'hôtel s'emplit d'un murmure de voix. Le fils et le gendre du défunt, dans un salon du rez-de-chaussée, reçoivent la cohue. Ils s'inclinent, ils gardent une politesse muette de gens affligés. Toutes les illustrations sont là. La noblesse, l'armée, la magistrature, il y a jusqu'à des sénateurs et des membres de l'Institut. À 10 heures enfin, le convoi se met en marche pour se rendre à l'église. Le corbillard est une voiture de première classe, empanachée de plumes, drapée de tentures à franges d'argent. Les cordons du poêle sont tenus par un maréchal de France, un duc, vieil ami du défunt, un ancien ministre et un académicien. Roger de Verteuil et M. de Bussac conduisent le deuil. Ensuite vient le cortège, un flot de monde ganté et cravaté de noir, tous des personnages importants qui souffle dans la poussière et marche avec le piétinement sourd d'un troupeau débandé. Le quartier ameuté est aux fenêtres, des gens font la haie sur les trottoirs, se découvrent et regardent passer avec des hochements de tête le corbillard triomphal. La circulation est interrompue par la file interminable des voitures de deuil, presque toutes vides. Les omnibus, les fiacres, s'amassent dans les carrefours. On entend les jurons des cochers et les claquements des fouets. Et pendant ce temps, la comtesse de Verteuil est restée chez elle, s'est enfermée dans son appartement en faisant dire que les larmes l'ont brisée. Étendue sur une chaise longue, jouant avec le gland de sa ceinture, elle regarde le plafond, soulagée et rêveuse. À l'église, la cérémonie dure près de 2 heures. Tout le clergé est en l'air. Depuis le matin, on ne voit que des prêtres affairés, courir en surplis, donner des ordres, s'éponger le front et se moucher avec des bruits retentissants. Au milieu de la nef, tendue de noir, un catafalque flamboie. Enfin, le cortège s'est casé, les femmes à gauche, les hommes à droite, et les orgues roulent leurs lamentations, les chantres gémissent sourdement, les enfants de chœur ont des sanglots aigus, tandis que, dans des torchères, brûlent de hautes flammes vertes qui ajoutent leur pâleur funèbre à la pompe de la cérémonie. « Est-ce que Faure ne doit pas chanter ?» demande un député à son voisin. « Oui, je crois, » répond le voisin, un ancien préfet, homme superbe, qui sourit de loin aux dames. Et lorsque la voix du chanteur s'élève dans la nef frissonnante, « Oh, quelle métole, quelle ampleur !» reprend-il à demi-voix en balançant la tête de ravissement. Toute l'assistance est séduite. Les dames, un vague sourire aux lèvres, songent à leur soirée de l'opéra. Ce Faure a vraiment du talent. Un ami du défunt va jusqu'à dire « Jamais il n'a mieux chanté. C'est fâcheux que ce pauvre Verteuil ne puisse l'entendre, lui qui l'aimait tant. » Les chantres en chape noire se promènent autour du catafalque. Les prêtres, au nombre d'une vingtaine, compliquent le cérémonial, saluent, reprennent des phrases latines, agitent des goupillons. Enfin, les assistants eux-mêmes défilent devant le cercueil, les goupillons circulent. Et l'on sort après les poignées de main à la famille. Dehors, le plein jour aveugle la cohue. C'est une belle journée de juin. Dans l'air chaud, les fils légers folent. Alors, devant l'église, sur la petite place, il y a des bousculades. Le cortège est long à se réorganiser. Ceux qui ne veulent pas aller plus loin disparaissent. À 200 mètres, au bout d'une rue, on aperçoit déjà les plumets du corbillard qui se balancent et se perdent lorsque la place est encore toute encombrée de voitures. On entend les claquements des portières et le trot brusque des chevaux sur le pavé. Pourtant, les cochers prennent la file et le convoi se dirige vers le cimetière. Dans les voitures, on est à l'aise. On peut croire qu'on se rend au bois lentement au milieu de Paris printanier. Comme on n'aperçoit plus le corbillard, on oublie vite l'enterrement. Et des conversations s'engagent. Les dames parlent de la saison d'été, les hommes causent de leurs affaires. « Dites donc, ma chère, allez-vous encore à Dieppe cette année ?»« Oh oui, peut-être, mais ce ne sera jamais qu'en août. Nous partons samedi pour notre propriété de la Loire. » Alors, mon cher, il a surpris la lettre, et ils se sont battus, oh, très gentiment, une simple égratignure. Le soir, j'ai dîné avec lui au cercle. Il m'a même gagné 25 louis. Ah, n'est-ce pas la réunion des actionnaires, et pour après-demain, on veut me nommer au comité. Je suis si occupé, je ne sais si je pourrais. » Le cortège, depuis un instant, suit une avenue. Une ombre fraîche tombe des arbres et les gaietés du soleil chantent dans les verdures. Tout d'un coup, une dame étourdie qui se penche à une portière laisse échapper « Oh tiens, oh c'est charmant par ici !» Justement, le convoi entre dans le cimetière Montparnasse. Les voix se taisent, on n'entend plus que le grincement des roues sur le sable des allées. Il faut aller tout au bout, la sépulture des Verteuil est au fond à gauche. Un grand tombeau de marbre blanc, une sorte de chapelle, très ornée de sculptures. On pose le cercueil devant la porte de cette chapelle et les discours commencent. Il y en a quatre. L'ancien ministre retrace la vie politique du défunt, qu'il présente comme un génie modeste qui aurait sauvé la France s'il n'avait pas méprisé l'intrigue. Ensuite, un ami parle des vertus privées de celui que tout le monde pleure. Puis un monsieur inconnu prend la parole comme délégué d'une société industrielle dont le comte de Verteuil était président honoraire. Enfin, un petit homme à mine grise dit les regrets de l'Académie des sciences morales et politiques. Pendant ce temps, les assistants s'intéressent aux tombes voisines, lisent des inscriptions sur les plaques de marbre. Ceux qui tendent l'oreille attrapent seulement des mots. Un vieillard aux lèvres pincées, après avoir saisi ce bout de phrase « Les qualités du cœur, la générosité, la bonté des grands caractères » hoche le menton en murmurant « Mais oui, je l'ai connu, c'était un chien fini !» Le dernier adieu s'envole dans l'air. Quand les prêtres ont béni le corps, le monde se retire. Il n'y a plus dans ce coin écarté que les fossoyeurs qui descendent le cercueil. Les cordes ont un frottement sourd, la bière de chêne craque. Monsieur le comte de Verteuil est chez lui. Et la comtesse, sur sa chaise longue, n'a pas bougé. Elle joue toujours avec le gland de sa ceinture, les yeux au plafond, perdue dans une rêverie qui, peu à peu, fait monter une rougeur à ses joues de belle blonde. 2. Madame Guérard est veuve. Son mari, qu'elle a perdu depuis 8 ans, était magistrat. Elle appartient à la haute bourgeoisie et possède une fortune de 2 millions. Elle a 3 enfants, 3 fils, qui, à la mort de leur père, ont hérité chacun de 500 000 francs. Mais ses fils, dans cette famille sévère, froide et guindée, ont poussé comme des rejetons sauvages, avec des appétits et des fêlures venus on ne sait d'où. En quelques années, ils ont mangé leurs 500 000 francs. L'aîné, Charles, s'est passionné pour la mécanique et a gâché un argent fou en inventions extraordinaires. Le second, Georges, s'est laissé dévorer par les femmes. Le troisième, Maurice, a été volé par un ami avec lequel il a entrepris de bâtir un théâtre. Aujourd'hui, les 3 fils sont à la charge de la mère qui veut bien les nourrir et les loger, mais qui garde sur elle par prudence les clés des armoires. Tout ce monde habite un vaste appartement de la rue de Turenne, au Marais. Madame Guérard a 68 ans. Avec l'âge, les manies sont venues. Elle exige chez elle une tranquillité, une propreté de cloître. Elle est avare, compte les morceaux de sucre, serre elle-même les bouteilles entamées, donne le linge et la vaisselle au fur et à mesure des besoins du service. Ses fils, sans doute, l'aiment beaucoup, et elle a gardé sur eux, malgré leurs 30 ans et leurs sottises, une autorité absolue. Mais quand elle se voit seule au milieu de ces 3 grands diables, elle a des inquiétudes sourdes. Elle craint toujours des demandes d'argent qu'elle ne saurait comment repousser. Aussi a-t-elle eu soin de mettre sa fortune en propriété foncière. Elle possède 3 maisons dans Paris et des terrains du côté de Vincennes. Ses propriétés lui donnent le plus grand mal, seulement elle est tranquille, elle trouve des excuses pour ne pas donner de grosses sommes à la fois. Charles, Georges et Maurice, d'ailleurs, grugent la maison le plus qu'ils peuvent. Ils campent là, se disputant les morceaux, se reprochant mutuellement leurs grosses fins. La mort de leur mère les enrichira de nouveau, ils le savent. et le prétexte leur semble suffisant pour attendre sans rien faire. Bien qu'ils n'en causent jamais, leur continuelle préoccupation est de savoir comment le partage aura lieu. S'ils ne s'entendent pas, il faudra le vendre, ce qui est toujours une opération ruineuse. Et ils songent à ces choses sans aucun mauvais désir, uniquement parce qu'il faut tout prévoir. Ils sont gais, bons enfants, d'une honnêteté moyenne. Comme tout le monde, ils souhaitent que leur mère vive le plus longtemps possible. Elle ne les gêne pas. Ils attendent, voilà tout. Un soir, en sortant de table, Madame Guérard est prise d'un malaise. Ses fils la forcent de se coucher et ils la laissent avec sa femme de chambre lorsqu'elle leur assure qu'elle est mieux, qu'elle a seulement une grosse migraine. Mais le lendemain, l'état de la vieille dame a empiré. Le médecin de la famille, inquiet, demande une consultation. Madame Guérard est en grand danger. Alors pendant 8 jours, un drame se joue autour du lit de la mourante. Son premier soin, lorsqu'elle s'est vue clouée dans sa chambre par la maladie, a été de se faire donner toutes les clés et de les cacher sous son oreiller. Elle veut, de son lit, gouverner encore, protéger ses armoires contre le gaspillage. Des luttes se livrent en elle, des doutes la déchirent. Elle ne se décide qu'après de longues hésitations. Ses 3 fils sont là et elle les étudie de ses yeux vagues. Elle attend une bonne inspiration. Un jour, c'est dans Georges qu'elle a confiance. Elle lui fait signe d'approcher et elle lui dit à demi-voix « Tiens, voilà la clé du buffet, prends le sucre. Tu refermeras bien et tu me rapporteras la clé. » Un autre jour, elle se défie de Georges. Elle le suit du regard dès qu'il bouge, comme si elle craignait de lui voir glisser les bibelots de la cheminée dans ses poches. Elle appelle Charles, lui confie une clé à son tour en murmurant « La femme de chambre va aller avec toi. Tu la regarderas prendre des draps et tu refermeras toi-même. » Dans son agonie, c'est là son supplice, ne plus pouvoir veiller aux dépenses de la maison. Elle se souvient des folies de ses enfants. Elle les sait paresseux, gros mangeurs, le crâne fêlé, les mains ouvertes. Depuis longtemps, elle n'a plus d'estime pour eux, qui n'ont réalisé aucun de ses rêves, qui blessent ses habitudes d'économie et de rigidité. L'affection seule surnage et pardonne. Au fond de ses yeux suppliants, on lit qu'elle leur demande en grâce d'attendre qu'elle ne soit plus là avant de vider ses tiroirs et de se partager son bien. Ce partage devant elle serait une torture pour son avarice expirante. Cependant, Charles, Georges et Maurice se montrent très bons. Ils s'entendent de façon à ce qu'un d'eux soit toujours près de leur mère. Une sincère affection paraît dans leurs moindres soins. Mais forcément, ils apportent avec eux les insouciances du dehors, l'odeur du cigare qu'ils ont fumé, la préoccupation des nouvelles qui courent la ville. Et l'égoïsme de la malade souffre de n'être pas tout pour ses enfants à son heure dernière. Puis, lorsqu'elle s'affaiblit, ses méfiances mettent une gêne croissante entre les jeunes gens et elle. S'ils ne songeaient pas à la fortune dont ils vont hériter, elle leur donnerait la pensée de cet argent par la manière dont elle le défend jusqu'au dernier souffle. Elle les regarde d'un air si aigu, avec des craintes si claires, qu'ils détournent la tête. Alors elle croit qu'ils guettent son agonie. Et en vérité, ils y pensent. Ils sont ramenés continuellement à cette idée par l'interrogation muette de ses regards. C'est elle qui fait pousser en eux la cupidité. Quand elle en surprend un rêveur, la face pâle, elle lui dit « Viens près de moi, à quoi réfléchis-tu ? » « À rien, mère. » Mais il a eu un sursaut. Elle hoche lentement la tête, elle ajoute « Oh, je vous donne bien du souci, mes enfants. Allez, ne vous tourmentez pas, je ne serai bientôt plus là. » Ils l'entourent et lui jurent qu'ils l'aiment et qu'ils la sauveront. Elle répond que non, d'un si entêté. Elle s'enfonce davantage dans sa défiance. C'est une agonie affreuse, empoisonnée par l'argent. La maladie dure 3 semaines. Il y a déjà eu 5 consultations. On a fait venir les plus grandes célébrités médicales. La femme de chambre aide les fils de madame à la soigner, et malgré les précautions, un peu de désordre s'est mis dans l'appartement. Tout espoir est perdu. Le médecin annonce que d'une heure à l'autre, la malade peut succomber. Alors un matin, que ses fils la croient endormie, ils causent entre eux près d'une fenêtre d'une difficulté qui se présente. On est au 15 juillet, elle avait l'habitude de toucher elle-même les loyers de ses maisons, et ils sont fort embarrassés, ne sachant comment faire rentrer cet argent. Déjà, les concierges ont demandé des ordres. Dans l'état de faiblesse où elle est, ils ne peuvent lui parler d'affaires. Cependant, si une catastrophe arrivait, ils auraient besoin des loyers pour parer à certains frais personnels. Mon Dieu, dit Charles à demi-voix, je vais, si vous le voulez, me présenter chez les locataires. Ils comprendront la situation, ils paieront. Mais Georges et Maurice paraissent peu goûter à ce moyen. Eux aussi sont devenus défiants. Ah, nous pourrions t'accompagner, dit le premier, nous avons tous les trois des dépenses d'affaires. Mais je vous remettrai l'argent. Vous ne me croyez pas capable de me sauver avec, bien sûr. Non, mais il est bon que nous soyons ensemble. Ce sera plus régulier. Et il se regarde avec des yeux où luisent déjà les colères et les rancunes du partage. La succession est ouverte et chacun veut s'assurer la part la plus large. Charles reprend brusquement en continuant tout haut les réflexions que ses frères font tout bas. Ben « Écoutez, nous vendrons, ça vaudra mieux. Si nous nous querellons aujourd'hui, nous nous mangerons demain. » Mais un râle leur fait vivement tourner la tête. Leur mère s'est soulevée, blanche, les yeux hagards, le corps secoué d'un frisson. Elle a entendu. Et elle tend ses bras maigres et elle répète d'une voix épouvantée « mes enfants !» Et une convulsion la rejette sur l'oreiller. Elle meurt dans la pensée abominable que ses fils la volent. Tous les trois, terrifiés, sont tombés à genoux devant le lit. Ils baisent les mains de la morte, ils lui ferment les yeux avec des sanglots. À ce moment, leur enfance leur revient au cœur. Ils ne sont plus que des orphelins. Mais cette mort affreuse reste au fond d'eux comme un remords et comme une haine. La toilette de la morte est faite par la femme de chambre. On envoie chercher une religieuse pour veiller le corps. Pendant ce temps, les trois fils sont en course. Ils vont déclarer le décès et commander les lettres de faire-part, régler la cérémonie funèbre. La nuit, ils se relaient, veillent chacun son tour avec la religieuse. Dans la chambre dont les rideaux sont tirés, la morte est restée étendue au milieu du lit, la tête roide, les mains croisées, un crucifix d'argent sur la poitrine. À côté d'elle brûle un cierge. Un bras de buis trempe au bord d'un vase plein d'eau bénite. Et la veillée s'achève dans le frisson du matin. La religieuse demande du lait chaud parce qu'elle n'est pas à son aise. Une heure avant le convoi, l'escalier s'emplit de monde. La porte cochère est tendue de draperie noire à franges d'argent. C'est là que le cercueil est exposé, comme au fond d'une étroite chapelle, entourée de cierges, recouvert de couronnes et de bouquets. Chaque personne qui entre prend un goupillon dans un bénitier au biais de la bière et asperge le corps. À 11 heures, le convoi se met en marche. Les fils de la défunte conduisent le deuil. Derrière eux, on reconnaît des magistrats, quelques grands industriels, toute une bourgeoisie grave et importante qui marche à pas comptés avec des regards obliques sur les curieux arrêtés le long des trottoirs. Il y a au bout du cortège 12 voitures de deuil. On les compte, on les remarque beaucoup dans le quartier. Cependant, les assistants s'apitoient sur Charles, Georges et Maurice, en habit, gantés de noir, qui marchent derrière le cercueil, la tête basse, le visage rougi de larmes. Du reste, il n'y a qu'un cri. Ils enterrent leur mère d'une façon très convenable. Le corbillard et le troisième classe, on calcule qu'ils en auront pour plusieurs milliers de francs. Un vieux notaire dit avec un fin sourire, « Si Madame Guérard avait payé d'elle-même son convoi, elle aurait économisé 6 voitures. » À l'église, la porte est tendue, les orgues jouent, l'absoute est donnée par le curé de la paroisse. Puis, quand les assistants ont défilé devant le corps, ils trouvent à l'entrée de la nef les 3 fils rangés sur une seule file, placés là pour recevoir les poignées de main des assistants qui ne peuvent aller jusqu'au cimetière. Pendant 10 minutes, ils ont le bras tendu, ils serrent des mains, sans même reconnaître les gens, mordant leurs lèvres, rentrant leurs larmes. Et c'est un grand soulagement pour eux lorsque l'église est vide et qu'ils reprennent leur marche lente derrière le corbillard. Le caveau de famille des Guérard est au cimetière du Père Lachaise. Beaucoup de personnes restent à pied, d'autres montent dans les voitures de deuil. Le cortège traverse la place de la Bastille et suit la rue de la Roquette. Des passants lèvent les yeux, se découvrent. C'est un convoi riche que les ouvriers de ce quartier populeux regardent passer en mangeant des saucisses dans des morceaux de pain fendu. En arrivant au cimetière, le convoi tourne à gauche et se trouve tout de suite devant le tombeau. Un petit monument, une chapelle gothique, qui porte sur son fronton ces mots gravés en noir, « Famille Guérard ». La porte en fonte découpée, grande ouverte, laisse apercevoir la table d'un hôtel où des cierges brûlent. Autour du monument, d'autres constructions dans le même goût s'alignent et forment des rues. On dirait l'aventure d'un marchand de meubles avec des armoires, des commodes, des secrétaires fraîchement terminés, rangés symétriquement à l'étalage. Les assistants sont distraits, occupés de cette architecture, cherchant un peu d'ombre sous les arbres de l'allée voisine. Une dame s'est éloignée pour admirer un rosier magnifique, un bouquet fleuri et odorant qui a poussé sur une tombe. Cependant, le cercueil a été descendu. Un prêtre dit les dernières prières, tandis que les fossoyeurs en veste bleue attendent à quelques pas. Les 3 fils sanglotent, les yeux fixés sur le caveau béant dont on a enlevé la dalle. C'est là, dans cette ombre fraîche, qu'ils viendront dormir à leur tour. Les amis les emmènent quand les fossoyeurs s'approchent. Et 2 jours plus tard, chez le notaire de leur mère, ils discutent, les dents serrées, les yeux secs, avec un emportement d'ennemis décidé à ne pas céder sur un centime. Leur intérêt serait d'attendre, de ne pas hâter la vente des propriétés, mais ils se jettent leurs vérités à la face. Charles mangerait tout avec ses inventions. Georges doit avoir quelques filles qui le plument. Maurice est certainement encore dans une spéculation folle où il engloutirait leurs capitaux. Vainement, le notaire essaie de leur faire conclure un arrangement à l'amiable. Il se sépare en menaçant de s'envoyer du papier timbré. C'est la morte qui se réveille en eux, avec son avarice et ses terreurs d'être volés. Quand l'argent empoisonne la mort, il ne sert de la mort que de la colère. On se bat sur les cercueils. Trois. 3. Monsieur Rousseau s'est marié à 20 ans avec une orpheline, Adèle Lemercier, qui en avait 18. À eux deux, ils possédaient 70 francs, le soir de leur entrée en ménage. Ils ont d'abord vendu du papier à lettres, des bâtons de cire à cacheter, sous une porte cochère. Puis ils ont loué un trou, une boutique large comme la main, dans laquelle ils sont restés 10 ans à élargir petit à petit leur commerce. Maintenant, ils possèdent un magasin de papeterie rue de Clichy qui vaut bien une 50 000 francs. Adèle n'est pas d'une forte santé, elle a toujours toussé un peu. L'air enfermé de la boutique, l'immobilité du comptoir ne lui valent rien. Un médecin qu'ils ont consulté lui a recommandé le repos et les promenades pour les beaux temps. Mais ce sont là des ordonnances qu'on ne peut suivre quand on veut vite amasser de petites rentes pour les manger en paix. Adèle dit qu'elle se reposera, qu'elle se promènera plus tard lorsqu'ils auront vendu et qu'ils se seront retirés en province. Monsieur Rousseau, lui, s'inquiète bien les jours où il la voit pâle avec des taches rouges sur les joues. Seulement, il a sa papeterie qui l'absorbe. Il ne saurait être sans cesse derrière elle à l'empêcher de commettre ses imprudences. Pendant des semaines, il ne trouve pas une minute pour lui parler de sa santé. Puis, s'il vient à entendre sa petite toux sèche, il se fâche. Il la force à mettre son châle et à faire un tour avec lui aux Champs-Élysées. Mais elle rentre plus fatiguée, toussant davantage. Les tracas du commerce reprennent M. Rousseau. La maladie est de nouveau oubliée jusqu'à une nouvelle crise. C'est ainsi dans le commerce. On y meurt sans avoir le temps de se soigner. Un jour, M. Rousseau prend le médecin à part et lui demande franchement si sa femme est en danger. Le médecin commence par dire qu'on doit compter sur la nature, qu'il a vu des gens beaucoup plus malades se tirer d'affaire. Puis, pressé de questions, il confesse que Madame Rousseau est phtisique, même à un degré assez avancé. Le mari est devenu blême en entendant cet aveu. Il aime Adèle pour le long effort qu'ils ont fait ensemble avant de manger du pain blanc tous les jours. Il n'a pas seulement en elle une femme, il a aussi un associé dont il connaît l'activité et l'intelligence. S'il la perd, il sera frappé à la fois dans son affection et dans son commerce. Cependant, il lui faut du courage, il ne peut fermer sa boutique pour pleurer à son aise. Alors il ne laisse rien voir, il tâche de ne pas effrayer Adèle en lui montrant des yeux rouges. Il reprend son train-train. Au bout d'un mois, quand il pense à ces choses tristes, il finit par se persuader que les médecins se trompent souvent. Sa femme n'a pas l'air plus malade. Et il arrive à la voir mourir lentement sans trop souffrir lui-même, distrait par ses occupations, s'attendant à une catastrophe, mais la reculant dans un avenir illimité. Adèle répète parfois « Oh, quand nous sommes à la campagne, tu verras comme je me porterai. Mon Dieu, il n'y a plus que 8 ans à attendre, ça passera vite. » Et M. Rousseau ne songe pas qu'il pourrait se retirer tout de suite avec de plus petites économies. Adèle ne voudrait pas d'abord. Quand on s'est fixé un chiffre, on doit l'atteindre. Pourtant, 2 fois déjà, Madame Rousseau a dû prendre le lit. Elle s'est relevée et est redescendue au comptoir. Les voisins disent « Oh, voilà une petite femme qui n'ira pas loin. » Et ils ne se trompent pas. Juste au moment de l'inventaire, elle reprend le lit 3e fois. Un médecin vient le matin, cause avec elle, signe une ordonnance d'une main distraite. Monsieur Rousseau, prévenu, sait que le fatal dénouement approche. Mais l'inventaire le tient en ordre dans la boutique C'est à peine s'il peut s'échapper 5 minutes de temps à autre. Il monte quand le médecin est là, puis il s'en va avec lui et reparaît un instant avant le déjeuner. Il se couche à 11 heures au fond d'un cabinet où il a fait mettre un lit de sangle. C'est la bonne Françoise qui soigne la malade. Une terrible fille, cette Françoise, une auvergnate aux grosses mains brutales, d'une politesse et d'une propreté douteuse. Elle bouscule la mourante, lui apporte ses potions d'un air maussade, fait un bruit intolérable en balayant la chambre qu'elle laisse dans un grand désordre. Des fioles toutes poissées traînent sur la commode, les cuvettes ne sont jamais lavées, les torchons pendent au dossier des chaises. On ne sait plus où mettre le pied tant le carreau est encombré. Madame Rousseau, cependant, ne se plaint pas et se contente de donner des coups de poing contre le mur lorsqu'elle appelle la bonne et que celle-ci ne veut pas répondre. Françoise n'a pas qu'à la soigner. Il faut en bas qu'elle tienne la boutique propre, qu'elle fasse la cuisine pour le patron et les employés, sans compter les courses dans le quartier et les autres besoins imprévus. Aussi, madame ne peut-elle exiger de l'avoir toujours auprès d'elle. On la soigne quand on a le temps. D'ailleurs, même dans son lit, Adèle s'occupe de son commerce. Elle suit la vente, demande chaque soir comment ça marche. L'inventaire l'inquiète. Dès que son mari peut monter quelques minutes, elle ne lui parle jamais de sa santé. Elle le questionne uniquement sur les bénéfices probables. C'est un grand chagrin pour elle d'apprendre que l'année est médiocre, 1400 francs de moins que l'année précédente. Quand la fièvre la brûle, elle se souvient encore sur l'oreiller des commandes de la dernière semaine. Elle débrouille des comptes, elle dirige la maison. Et c'est elle qui renvoie son mari s'il s'oublie dans la chambre. Cela ne la guérit pas qu'il soit là, et ça compromet les affaires. Elle est sûre que les commis regardent passer le monde. Elle lui répète « Descends, mon ami, je n'ai besoin de rien, je t'assure. Et n'oublie pas de t'approvisionner de registres, parce que voilà la rentrée des classes et que nous en manquerions. » Longtemps, elle s'abuse sur son véritable état. Elle espère toujours se lever le lendemain et reprendre sa place au comptoir. Elle fait même des projets. Si elle peut sortir bientôt, ils iront passer un dimanche à Saint-Cloud. Jamais il n'a eu un si gros désir de voir des arbres. Puis, tout d'un coup, un matin, elle devient grave. Dans la nuit, toute seule, les yeux ouverts, elle a compris qu'elle allait mourir. Elle ne dit rien jusqu'au soir, réfléchit, les regarde au plafond. Et le soir, elle retient son mari, elle le cause tranquillement comme si elle lui soumettait une facture. Écoute, dit-elle, tu iras chercher demain un notaire. Il y en a un près d'ici, rue Saint-Lazare. Pourquoi un notaire ? S'écrie Monsieur Rousseau. Nous n'en sommes pas là, bien sûr. Mais elle reprend son air calme et raisonnable. Possible, seulement cela me tranquillisera de savoir nos affaires en ordre. Nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté quand nous ne possédions rien, ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui que nous avons gagné quelques sous, je ne veux pas que ma famille puisse venir te dépouiller. Ma sœur Agathe n'est pas si gentille pour que je lui laisse quelque chose. J'aimerais mieux tout emporter avec moi. Et elle s'entête, il faut que son mari aille le lendemain chercher le notaire. Elle questionne ce dernier longuement, désirant que les précautions soient bien prises et qu'il n'y ait pas de contestation. Quand le testament est fait et que le notaire est parti, elle s'allonge en murmurant « Maintenant, je mourrai contente. Oh, j'avais bien gagné d'aller à la campagne. Je ne veux pas dire que je ne regrette pas la campagne. Mais tu iras, toi. Promets-moi de te retirer dans l'endroit que nous avions choisi, tu sais, le village où ta mère est née, près de Melun. Cela me fera plaisir. » Monsieur Rousseau pleure à chaudes larmes. Elle le console, lui donne de bons conseils. S'il s'ennuie tout seul, il aura raison de se remarier. Seulement, il devra choisir une femme un peu âgée. Parce que les jeunes filles qui épousent des veufs épousent leur argent. Et elle lui indique une dame de leur connaissance avec laquelle elle serait heureuse de le savoir. Puis, la nuit même, elle a une agonie affreuse. Elle étouffe, demande de l'air. Françoise s'est endormie sur une chaise. Monsieur Rousseau, debout au chevet du lit, ne peut que prendre la main de la mourante et la serrer pour lui dire qu'il est là, qu'il ne la quitte pas. Le matin, tout d'un coup, elle éprouve un grand calme. Elle est très blanche, les yeux fermés, respirant lentement. Son mari croit pouvoir descendre avec Françoise pour ouvrir la boutique. Quand il remonte, il trouve sa femme toujours très blanche, raidie dans la même attitude. Seulement, ses yeux se sont ouverts. Elle est morte. Depuis trop longtemps, M. Rousseau s'attendait à la perdre. Il ne pleure pas. Il est simplement écrasé de lassitude. Il redescend, regarde Françoise remettre les volets de la boutique, et lui-même, il écrit sur une feuille de papier « fermé pour cause de décès ». Puis il colle cette feuille sur le volet du milieu avec quatre pains à cacheter. En haut, toute la matinée est employée à nettoyer et à disposer la chambre. Françoise passe un torchon par terre, fait disparaître les fioles, met près de la morte un siège allumé et une tasse d'eau bénite, car on attend la sœur d'Adèle, cette Agathe, qui a une langue de serpent, et la bonne ne veut pas qu'on puisse l'accuser de mal tenir le ménage. M. Rousseau a envoyé un commis à remplir les formalités nécessaires. Lui se rend à l'église et discute longuement le tarif des convois. Ce n'est pas parce qu'il a du chagrin qu'on doit le voler. Il aimait bien sa femme, et si elle peut encore le voir, il est certain qu'il lui fait plaisir en marchant dans les curés et les employés des pompes funèbres. Cependant, il veut pour le quartier que l'enterrement soit convenable. Enfin, il tombe d'accord, il donnera 160 francs à l'église et 300 francs aux pompes funèbres. Il estime qu'avec les petits frais, il n'en sera pas quitte à moins de 500 francs. Quand M. Rousseau rentre chez lui, il aperçoit Agathe, sa belle-sœur, installée près de la morte. Agathe est une grande personne sèche, aux yeux rouges, aux lèvres bleuâtres et minces. Depuis 3 ans, le ménage était brouillé avec elle et ne la voyait plus. Elle se lève cérémonieusement, puis embrasse son beau-frère. Devant la mort, toutes les querelles finissent. M. Rousseau, qui n'a pu pleurer, et le matin sanglote alors en retrouvant sa pauvre femme blanche et raide, le nez pincé davantage, la face si diminuée qu'il la reconnaît à peine. Agathe reste les yeux secs. Elle a pris le meilleur fauteuil. Elle promène lentement ses regards dans la chambre, comme si elle dressait un inventaire minutieux des meubles qui la garnissent. Jusque-là, elle n'a pas soulevé la question des intérêts, mais il est visible qu'elle est très anxieuse et qu'elle doit se demander s'il existe un testament. Le matin des obsèques, au moment de la mise en bière, il arrive que les pompes funèbres se sont trompées et ont envoyé un cercueil trop court. Les croque-morts doivent aller en chercher un autre. Cependant, le corbillard attend devant la porte, le quartier est en révolution. C'est là une nouvelle torture pour M. Rousseau. Si encore ça ressuscitait sa femme de la garder si longtemps. Enfin, on descend la pauvre Madame Rousseau et le cercueil ne reste exposé que 10 minutes en bas, sous la porte tendue de noir. Une centaine de personnes attendent dans la rue. Des commerçants du quartier, les locataires de la maison, les amis du ménage, quelques ouvriers en paletot. Le cortège part, M. Rousseau conduit le deuil. Et sur le passage du convoi, les voisines font un signe de croix rapide en parlant à voix basse. Ah, oh, c'est la papetière, n'est-ce pas? Cette petite femme si jaune, qui n'avait plus que la peau et les os. Ah, oh, bien, elle sera mieux dans la terre. Ce que c'est que de nous, pourtant. Des commerçants très à leur aise, qui travaillaient pour prendre du plaisir sur leurs vieux jours. Elle va en prendre maintenant du plaisir, la papetière. Et les voisines trouvent M. Rousseau très bien, parce qu'il marche derrière le corbillard tête nue, tout seul, pâle, et ses rares cheveux envolés dans le vent. En 40 minutes à l'église, les prêtres bâclent la cérémonie. Agathe, qui s'est assise au premier rang, semble compter les cierges allumés. Sans doute elle pense que son beau-frère aurait pu y mettre moins d'ostentation, car enfin, s'il n'y a pas de testament et qu'elle hérite de la moitié de la fortune, elle devra payer sa part du convoi. Les prêtres disent une dernière oraison, le goupillon passe de main en main et l'on sort. Presque tout le monde s'en va. On a fait avancer les 3 voitures de deuil dans lesquelles les dames sont montées. Derrière le corbillard, il ne reste que M. Rousseau, toujours tête nue, et une 30aine de personnes, les amis qui n'osent s'esquiver. Le corbillard est simplement orné d'une draperie noire à franges blanches. Les passants se découvrent et filent vite. Comme M. Rousseau n'a pas de tombeau de famille, il a simplement pris une conception de 5 ans au cimetière Montmartre, en se promettant d'acheter plus tard une concession à perpétuité et d'exhumer sa femme pour l'installer définitivement chez elle. Le corbillard s'arrête au bout d'une allée et l'on porte à bras le cercueil parmi les tombes basses jusqu'à une fosse creusée dans la terre molle. Les assistants piétinent, silencieux. Puis le prêtre se retire après avoir mâché 20 paroles d'entre ses dents. De tous côtés s'étendent des petits jardins fermés de grilles, des sépultures garnies de giroflées et d'arbres verts. Les pierres blanches au milieu de ces verdures semblent toutes neuves et toutes gaies. M. Rousseau est très frappé par la vue d'un monument, une colonne mince surmontée de l'urnes symboliques. Le matin, un marbrier est venu le tourmenter avec des plans, et il songe que, lorsqu'il achètera une concession à perpétuité, il fera mettre sur la tombe de sa femme une colonne pareille avec ce joli vase. Cependant, Agathe l'emmène et de retour à la boutique, elle se défie d'enfin à parler intérêt. Quand elle apprend qu'il existe un testament, elle se lève toute droite, elle s'en va en faisant claquer la porte. Jamais elle ne remettra les pieds dans cette baraque. Monsieur Rousseau a toujours par moments un gros chagrin qui l'étrangle. Mais ce qui le rend bête surtout, la tête perdue et les membres inquiets, c'est que le magasin soit fermé un jour de semaine.